Et c'est lundi, donc on va parler finance avec Lynn Kearney, comme on le fait à chaque début de semaine. Lynn, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Et là, on va parler impôts, plus précisément de distinction entre les célibataires et les conjoints de fait, parce qu'il y a des trucs à prendre en considération quand on fait nos déclarations de revenus.
Ben oui, c'est une question qui revient souvent. Moi, j'ai un chum, une blonde, là, mais ça fait pas si longtemps que ça, puis je sais pas trop là pour l'impôt, est-ce que je suis célibataire ou qu'on le sait dans la vie si on est en couple
oui.
ou pas, là, en général.
On devrait, en tout cas.
Pour nos gouvernements, je suis considérée comme un célibataire ou comme un conjoint de fait. Ça, c'est pas toujours évident pour les gens. Puis, les règles fiscales sont différentes d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est important là, de bien faire les choses et de bien le déclarer. Des fois, on peut penser qu'une des deux situations ferait notre affaire pour le gouvernement, qu'on paierait un peu moins d'impôts d'une telle ou d'une telle façon. Mais c'est pas notre vraie situation. Évidemment, je recommande pas de prendre cette voie de contournement-là, peu importe si c'est pour se déclarer célibataire ou conjoint, là, que peu importe la situation. C'est sûr que ça fait des différences. Ça me fait penser là, un petit peu dans le temps, c'est là, si on entendait des fois les gens moi, je vais me marier pour les prêts et bourses, là, parce que là, je serai plus dépendant de mes parents. Tu sais, c'est sûr qu'il y a moyen de faire des choses qui sont pas vraies, mais à la fin de la journée, je suis de celles qui pensent qu'on ne gagne jamais en faisant ça et qu'on devrait plutôt être honnête et pas essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre, mais de déclarer nos vraies situations.
Bon, ben justement, si on veut la déclarer, cette situation-là, il y a des critères à cocher, j'imagine?
Exactement. Bon, premièrement, si on est marié, la situation est parfaitement claire là aux yeux de autant pour Revenu Québec que l'Agence de revenus du Canada. Mm-hmm. Si on est légalement marié, on est marié puis on déclare conjointement nos déclarations d'impôts. Si on partage notre vie sous un même toit avec notre être cher, c'est pratiquement certain là, qu'on va être soumis aux mêmes exigences de déclaration conjointe qu'une personne mariée. Donc, au niveau fiscal, on sait qu'au niveau de la loi, le patrimoine familial notamment et tout ça, il y a des différences entre conjoint de fait et marié, mais au niveau de l'impôt, il n'y en a pas. Pas proprement dit, là, au niveau de l'impôt annuel. Là,
donc, on est un couple qui vit ensemble, ça va, ça fonctionne.
Qu'on soit marié ou conjoint de fait, c'est ça. Fait que si on vit ensemble sur le même toit, là, c'est presque sûr, là, faudrait vraiment qu'il y ait des exceptions pour qu'on soit pas conjoint de fait. Si on vit, normalement, on parle, là, depuis 12 mois d'affilée, quand on est dans une relation conjugale, depuis 12 mois d'affilée, même si on n'habite pas ensemble, ça pourrait s'appliquer. Si on a un enfant ensemble, c'est automatique.
Okay.
Donc, ça se peut qu'on ait un enfant ensemble avant 12 mois là, de relation. Ça voudrait dire qu'on a fait ça vite, là, parce que moi, je compte 9 mois pour...
Mais c'est des choses qui arrivent, donc c'est prévu dans la loi sur l'impôt, là.
Exactement.
OK.
Oups, je m'excuse, Sébastien, tu vois que j'avais un appel.
Bon.
ça a arrêté. Donc, notre état civil change après une séparation d'au moins 90 jours. Donc, c'est notre état civil au 31 décembre.
Mm-hmm.
Donc, c'est après, ça se peut là, que on se soit chicané le 29 décembre puis qu'on soit allé coucher chez notre mère ou notre soeur ou notre frère. Là, ça veut pas dire qu'on est célibataire le 31 décembre. Il faut que ça fasse 90 jours normalement qu'on n'est plus en union de fait pour qu'on puisse se déclarer célibataire.
Parfait.
Bon, fait un coup qu'on a décidé, on pas décidé, un
statué,
coup qu'on a établi sur notre statut. Si on est des fois on se dit si on se met à deux, on va payer plus d'impôts parce que là, toi, des fois, il y a une des personnes qui gagne moins de revenus, exemple, qui est plus à la maison ou on peut en couple quand même bénéficier du fait qu'un des deux, même si on met nos deux salaires ensemble, que c'est plus grand, chacun a le droit au montant personnel de base là, d'environ 14 000 $, là, le premier 14 000 $ de revenus où on ne paie pas d'impôts.
Mm-hmm.
Admettons, Sébastien, que toi et moi, on est un couple. Puis que toi, tu gagnes 0 $, moi, je gagne 28 000 $. Je vais pas m'imposer sur 14 000. Je vais avoir droit à ton crédit de 14 000 à toi. Donc, ça va revenir à la même chose. Là.
Okay.
J'ai le droit de... Les crédits sont transférables entre conjoints pour que ce soit le revenu familial qui soit imposé là, de la bonne façon.
OK.
Donc, il y a des avantages aussi à déclarer conjointement, dans le sens où on peut partager les crédits. On peut combiner nos dépenses de frais médicaux, par exemple. Donc, si moi, j'ai 1 000 $ de frais médicaux cette année, on sait que c'est l'excédent de 3 % de nos revenus qui sont déductibles en frais médicaux. Donc, si on combine les frais médicaux de la famille, du couple, ben on va pouvoir on a juste une fois à dépasser ce plafond de 3 %-là. Là. Donc, c'est peut-être un peu technique là, pour la radio, mais on a un avantage là, à déclarer conjointement nos frais médicaux,
okay.
Nos dons de charité. Il y a des crédits aussi qui sont transférables d'un conjoint à l'autre, que si on se déclare individuel, on pourra pas. Des montants pour frais de scolarité, exemple, des montants pour aidant naturel, pour soignant, crédit en raison de l'âge, parce que on peut se poser la question souvent, c'est à tous les âges, on a des relations, c'est pas juste les jeunes couples là, mm-hmm. qui viennent, ça peut être nos parents, nos grands-parents, même qui vivent dans des RPA, qui ont à se poser la question là, donc ça va jusque là. Donc, sachez que vous pouvez transférer les crédits d'impôt d'une personne à l'autre quand vous êtes en couple, ce qui n'est pas possible quand on est seul.
Non, c'est ça.
Le montant des crédits qu'on peut se transférer est limité aux revenus imposables là, du conjoint. Il y a des limites. On ne peut pas tout transférer la nature des crédits non plus, puis je ne vous les détaillerai pas.
Non, c'est ça, parce que c'est beaucoup du cas par cas rendu là.
Oui, c'est ça. Mais le but de la chronique, c'est vraiment là, de bien faire les choses, puis de se poser la question, puis de déclarer comme il faut. Ça m'arrive là, de dire, ben moi, je vais dire que je pense que j'ai un avantage, fait que je vais dire que je reste encore à telle place, mais là, je dis, ben c'est pas moi qui va faire ta déclaration, là, je le sais, puis je suis pas... Il faut être honnête avec le mm-hmm. fait. Je l'ai répété souvent, moi, je vous donne des trucs pour économiser, mais de pas déclarer les vraies choses au fisc, moi, je pense qu'à la fin de la journée...
c'est rarement gagnant, ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Ça peut être gagnant à très, très court terme. Là. Peut-être que cette année, ça va te donner un petit peu plus de remboursement d'impôts. Mais la journée où tu vas te faire pincer, par exemple, ça va faire bobo.
Probablement, oui.
Des crédits qu'on peut perdre, ça va... les crédits TPS, TVH sont réduits quand notre revenu familial dépasse un certain seuil. Mm-hmm. Donc, là, souvent, en tant que célibataire, le seuil, il commence à être réduit graduellement à 39 000 $. Fait qu'une personne seule, va souvent avoir droit au crédit. Quand on est deux revenus, c'est rare qu'on dépasse pas ce seuil-là. Là. Donc là, ça, c'est pas avantageux pour ça. La prestation fiscale canadienne pour enfants, elle disparaît progressivement aussi quand selon le revenu combiné de la famille et non d'une seule personne. Même chose pour les crédits pour personnes à charge, supplément de revenus garanti pour les personnes un peu plus âgées. Donc, il y a des choses qui sont pas nécessairement positives quand on est conjoint de fait. Mais bon, on a quelqu'un qu'on aime dans notre vie. Faut voir le beau côté des choses. Et on peut profiter là des exemptions REER. Si exemple, moi mon compte REER est plein que je peux pas cotiser. Toi Sébastien là dans mon exemple c'est mon conjoint encore là. Je m'excuse là pour
ça va. On peut se poursuivre. On suit mieux.
Si toi il y a de la place dans ton espace REER, je peux déduire moi cotiser à ton REER et vice versa là du conjoint. Donc ça peut être des choix, des stratégies qu'on peut faire. Fait que bref, il y a des différences, il y a des grosses différences, qu'on soit célibataire ou conjoint de fait au fin de l'impôt. Mais allez sur le site de Revenu Québec ou de l'Agence du Revenu du Canada, voir votre définition de votre situation. Puis mon conseil, c'est de suivre la voie qui est la vraie voie et non celle que vous croyez la fiscalement la plus avantageuse pour vous.
Je pense que c'est un excellent conseil. Lynn, un grand merci pour ces précisions pour qu'on puisse s'assurer de cocher la bonne case dans notre déclaration de revenus. Puis nous, on se donne rendez-vous lundi prochain.
Oui, la semaine prochaine, on va parler de vos déclarations. Voulez-vous les faire vous-même? Si oui, ben je vais essayer de vous encadrer un petit peu là-dedans.
OK, parce qu'il y a moyen de le faire. C'est peut-être pas aussi compliqué qu'on pense. C'est ça.
Ça dépend des situations. Ouais. C'est comme faire notre ménage. Hein. Tout le monde est capable de le faire, mais des fois, ça nous tente pas puis on embauche quelqu'un.
J'aime beaucoup l'analogie et j'ai hâte à lundi prochain pour la suite. Merci, Lynn.
Merci, Sébastien.